Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, aujourd'hui on va revenir sur le Grand Prix d'Italie, 14e manche de la saison 2023 sur l'autodrome de Monza. Grand Prix d'Italie avec en plus une Ferrari en pole position. Tout était prêt pour le feu d'artifice, Stéphane.
Qui a duré une quinzaine de tours, je crois.
C'est
déjà, ça. Ça nous a fait
c'est pas
frémir.
C'est vrai, c'est ça. Pas si mal.
On y a cru 15 tours.
Et pour autant, effectivement, c'est Max Verstappen qui s'est encore imposé, 10e victoire de rang. Mais alors, que vaut cette série comparée à celle des 9 succès consécutifs que Sébastien Vettel avait réalisé en 2013? Eh ben, on mettra ça en perspective avec Stéphane. On va parler aussi de Ferrari, hein, les deux Ferrari 3e et 4e, avec un Carlos Sainz qui a fait dans une résistance magnifique ce week-end, 3e du Grand Prix. L'Espagnol qui donne le sentiment d'être un éternel candidat au statut de numéro 1. Oui, mais chez qui? Parce que si la Scuderia semble lui refuser ce statut, on vous parlera peut-être d'un futur statut de pilote numéro 1 pour l'Espagnol. Et puis on reviendra aussi plus généralement sur l'enjeu de Ferrari pour Ferrari sur ce Grand Prix d'Italie. Et puis, on a appris juste avant le Grand Prix d'Italie la reconduction du contrat de Lewis Hamilton pour 2 ans avec Mercedes, en même temps que la prolongation de George Russell pour la même durée. Ça veut dire qu'on va avoir donc Lewis Hamilton jusqu'à fin 2025. Ben, on fera le point avec Stéphane justement sur cette grille de départ 2024. Qui est presque complète. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, ça nous fera plaisir, et à vous abonner, ça sera plus pratique. Et de cette manière, vous aurez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc, Stéphane, les fous du volant, aujourd'hui, avec une série de records qui continue de tomber. Hein. La semaine dernière, il avait égalé Max Verstappen le record de 9 victoires consécutives de Sébastien Vettel à Zandvoort. Avec cette 10e victoire, il est désormais le seul recordman. C'est la 15e victoire consécutive pour Red Bull, qui dépasse Ferrari dans ce domaine. Ça donne le tournis. J'ai l'impression qu'on se répète un petit peu. C'est ce qu'on se disait.
Pour une fois, il n'était pas en pôle.
Mais non, il n'a pas été. Effectivement.
Enfin, il n'est pas tout le temps parce que c'est Leclerc qui était à Spa, donc ça change un petit peu. Mais
il a quand même donné le sentiment de jamais avoir perdu ses moyens. À aucun moment, moi, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un affolement, que le rythme cardiaque de Max Verstappen s'est accéléré pendant ce week-end.
Oui, et si on parle de 10 victoires, c'est que il n'est toujours pas tombé. Il l'avait dit avant, à un moment ou un autre, je vais être battu. Pour l'instant, c'est à un autre partie de la déclaration. Et vous attendrez la prochaine fois, s'il vous plaît.
Oui, Christian Horner a eu à peu près les mêmes mots.
Oui, puis il a souligné surtout qu'il y avait toute une industrie derrière lui pour permettre tout ça et que c'est lui qui le traduisait. Je retiens quand même, Gilles, que sur ces 10 victoires, il y en a 5 qui ont été obtenues sur la piste, c'est-à-dire en étant obligé de doubler le leader pour l'emporter. Il a même fait 2 dépassements qu'on peut considérer comme cruciaux, décisifs, dimanche. C'était sur Sainz, le dépassement qui lui a valu de gagner au 15e tour, mais il a aussi dû effacer Hamilton au 25e passage. Donc ça veut dire que c'est une période de risque quand même qu'il a assumé, il l'a fait proprement, il avait essayé quand même plusieurs fois, il a buté sur Sainz sans s'énerver, vraiment. Il était presque serein depuis le samedi, il prenait cette 2e place sur la grille comme une péripétie, on l'a vu. Et puis, dimanche, en fait, il a attendu que Sainz tombe comme un fruit mûr.
Oui, c'est ça. Même les échanges radio, hein, on voyait bien qu'en gros, ce qu'on attendait, c'était que la Ferrari mange ses pneus et puis ensuite, Il n'y avait plus qu'à aller cueillir cette première place.
Scénario intéressant comme à Zandvoort où c'était pas servi sur un plateau quand même. Alors si on parle de 10 victoires de suite, les scénarios changent un petit peu quand même. Et Ferrari était incisif ce week-end. Mais effectivement, 10 victoires, qu'est-ce que ça représente? Il efface en fait Vettel. Et moi, à l'époque, quand même, je trouvais en 2013 que Vettel avait un coéquipier particulièrement chevronné en la personne de Marc Weber, qu'elle a eu pendant 5 ans quand même. Hein, et 5 années, mais de polémique sur la piste parce que c'était un coup à toi, un coup à moi. Si Weber avait été champion du monde en 2010, ça n'aurait absolument pas été un scandale.
Non, clairement.
C'est pour dire qu'il était très près du niveau de Vettel et beaucoup plus régulièrement que Pérez. Et pour moi, bon, ben, dans les statistiques maintenant, c'est Verstappen numéro 1. Mais je garde encore en mémoire cette chevauchée fantastique de Vettel qui gagnait quand même. Alors, en tant que numéro 1 pilote élu de l'écurie, mais avec une grosse concurrence.
Oui, c'est sûr. En fait, le binôme Vettel-Weber est quand même plus proche de ce qu'on a connu plus récemment avec Hamilton-Rosberg que ce qu'on a en ce moment avec Verstappen, que ce soit avec Pérez, même si en début de saison, ça a quand même été un petit peu chaud. Mais voilà, avec Albon, avec Pérez, avec malheureusement Pierre Gasly, avec Daniel Ricciardo, il y a rarement eu quand même une réelle concurrence. Alors, cette série de 10 victoires, on va essayer de la comparer un petit peu. Stéphane, peut-être, oui. Avant d'aller dans les chiffres, quand même, ce qu'elle inspire,
le dérapage du week-end.
Ce qu'elle inspire aux gens autour, hein, oui, qui commencent à s'impatienter un peu. On dit, bon, il va se passer un truc à un moment, voilà. On commence par Toto Wolff.
Ben oui, forcément, là, on... Toto Wolff qui a dit en fait que c'était un record Wikipédia, tout simplement. Il dit bon, voilà, c'est pas quelque chose de très très important pour moi. Alors il compare un petit peu la série de victoires de son écurie qui avait remporté 10 victoires de suite. C'était avec Hamilton et Rosberg. Rosberg avait fait 7 victoires de suite sous les couleurs de Mercedes. Et pour lui, c'est une forme de banalité. Je trouve que c'est un peu too much, là. Quand même, c'est un irrespect, surtout que par le passé, il a quand même montré une certaine admiration pour tous ces records que battait Lewis Hamilton. Là, il en fait un petit peu trop. On le sent un petit peu énervé, Toto.
Ouais, un peu frustré. Je suis allé sur la page Wikipédia, bah, justement, de Toto Wolff. Et Wikipédia dit, on ne sait pas qui c'est. Alors, ensuite, il y a Lewis Hamilton lui-même.
Alors, je complète quand même en terminant par dire que Toto Wolff a dit, bon, mais tout ça, c'est le résultat quand même d'un super pilote
dans une
super voiture quand et même. Avec quand même une concurrence d'un niveau extrêmement élevé. Mmh. Et tout le monde est d'accord pour dire que le niveau s'élève régulièrement. Il n'y a qu'à voir la densité des grilles de départ, des qualifications. On a souvent maintenant des top 10 en une seconde et même moins.
Oui.
Bon, donc, il ne faut pas enlever non plus à Red Bull tout le mérite qu'ils ont. Ce sont des gens qui travaillent très, très bien. Et Verstappen est tout simplement une machine.
Alors, le commentaire de Lewis Hamilton.
Ah ben, Lewis Hamilton... Alors, on lui a posé la question avant ces 10 victoires sur cette série, sur cette hégémonie de Red Bull et spécialement de Max Verstappen. Et c'est vrai qu'il a dit, j'avais avec Bottas et même avec tous mes coéquipiers, des gens à côté de moi dans le garage qui étaient plus forts que ceux que Max a eu. Alors, vrai ou faux ?
Bah, t'es allé vérifier.
Tout à fait.
Et c'est parti.
Sachant que, Verstappen a dit il est peut-être un petit peu jaloux. Alors, on va voir dans les faits ce que ça donne précisément. On a regardé tout simplement le nombre de saisons disputées dans l'histoire par les plus grands champions avec un coéquipier champion du monde. Eh bien, le pilote qui a accepté le plus de challenges avec un coéquipier de valeur, champion du monde, je dirais actif ou à venir, c'est ça, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui a fait 8 années complètes avec... un champion du monde et du gros calibre quand même. On parle de Alonso, Button et Rosberg, mine de rien. Il a dépassé dans ses statistiques, longtemps ça a été Prost, 7 coéquipiers champions du monde, Lauda, Keke Rosberg, Ayrton Senna, Nigel Mansell et Damon Hill. Là aussi c'est pareil, il aimait se frotter, il voulait avoir les meilleurs dans son équipe tout simplement parce que ça élevait le niveau. Tout simplement, et puis Button 6 quand même avec Villeneuve, Hamilton et Alonso, et en bas de la liste, enfin même pas en bas de la liste, et en dehors de cette liste, on trouve Max Verstappen avec 0 coéquipier champion, tout simplement.
D'accord.
Donc Un petit conseil à Max Verstappen, effectivement, quand il parle de, d'une jalousie prétendue, c'est quand on est jaloux, c'est qu'on a moins bien que la personne à laquelle on se compare et pas 3, 4 ou 10 fois moins.
Bah, et cela dit, si Hamilton ne s'était pas fait battre par Rosberg en 2016, finalement, il n'aurait pas 8 saisons passées avec un champion du monde.
Il en aurait 4, mais attention, voilà. Parce qu'un jour, on comptera peut-être celle passée avec George Russell.
Oui, peut-être pas avec Sergio Pérez. Bon, bref, ça paraît plus facile pour Max Verstappen, c'est ça que ça traduit aujourd'hui. C'est plus facile pour Verstappen d'aligner 10 victoires que Vettel à l'époque.
Moi, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui pour Verstappen dans un calendrier à 22 Grands Prix, donc 22 circuits, qui sont quand même assez variés. Hein. On retrouve des choses très différentes, Spa, Zandvoort. Là, maintenant, on va à Singapour. Et il n'y a plus une voiture qui est imbattable sur chacun de ces 22 circuits. Donc, c'est à Verstappen de compenser tout ça. Et on n'a même plus de voitures qui sont fabriquées spécifiquement ou qui arrivent à être dans la fenêtre en fait, technique de tous ces circuits. Et c'est un challenge extraordinairement difficile, je pense, plus difficile qu'il y a 10 ans.
Ouais, alors j'ai peut-être une vision un petit peu différente, c'est quand on est finalement le meilleur pilote, bah c'est peut-être plus facile justement, parce que bah, les autres équipes non plus peuvent pas faire quelque chose de très spécifique, même si certaines équipes, on va parler de Ferrari qui avait un aileron un petit peu particulier, un aileron arrière un petit peu particulier à Monza. Bref, tout ça pour dire que le record, c'est maintenant Verstappen qui le détient et qui a sujet. C'est, certes, il y avait un petit peu plus de répondants au sein même de chez Red Bull à l'époque Vettel,
oui,
mais que ce n'est pas simple non plus pour Verstappen.
Et puis, c'est 10 victoires pour Verstappen, c'est 15 de suite pour Red Bull, et même...
Ouais, le chiffre, c'est peut-être ça le chiffre le plus impressionnant.
24 sur 25. Et là,
24, en fait, 24 victoires sur les 25 dernières épreuves disputées.
Il faut de la fiabilité et c'est pas pour rien aussi si la seule écurie qui n'a pas essuyé un abandon cette année s'appelle Red Bull.
Ben voilà, on va s'arrêter sur le sujet avec cette conclusion. Stéphane, on va passer à Ferrari et à Carlos Sainz. Ferrari. On a le sentiment, on échangeait Stéphane en préparant ce podcast, on a eu le sentiment que de toute façon, samedi soir, le week-end de Ferrari était réussi avec la pole position de Carlos Sainz. C'était déjà mission accomplie. On évoquait cet aileron arrière recyclé plus ou moins de l'année de la saison 2022 hein, pour essayer d'avoir une vitesse de pointe la plus élevée possible à Monza. Je pense que le moteur, on lui a demandé aussi un petit peu plus que les trois autres moteurs qui seront utilisés tout au long de la saison sur ce week-end. Clairement, après, on va parler plus longuement de Carlos Sainz, mais clairement, Ferrari a mis le paquet pour briller ou en tout cas exister ce week-end à Monza.
On dit que la Formule 1 se joue à des détails. Et là, ça s'est peut-être joué à 55 millièmes. Le délai qui a manqué à Charles Leclerc pour se positionner devant Max Verstappen sur la grille de départ et faire un doublé en première ligne des Ferrari. Et là, l'histoire aurait été certainement, je pense, différente. Verstappen n'aurait pas géré comme il a géré. Ferrari avait signé deux pole positions précédemment sur des circuits où il y a quand même des boulevards. C'est Bakou et Spa, donc ce n'était pas pour rien là, ouais, qu'ils avaient aussi une chance au moins de briller en qualif. Ils avaient mis le paquet, oui, parce que déjà, ils avaient installé des moteurs numéro 4, tout neufs, flambant neufs. Et chez Red Bull, on a même dit, c'est Horner qui a dit, ils ont peut-être même tiré plus que sur tous les autres moteurs, parce que c'était ça qui comptait, certainement. Ben, là, c'était ça passe ou ça casse, tout simplement. Et puis, ils sont partis sur des pistes de réglage quand même différentes. Leclerc pensait avoir une bonne direction de travail sur le setup vendredi, et puis en fait non, sa voiture n'était pas bien équilibrée, alors que Sainz a dit c'était nickel, mais ils avaient maximisé vraiment les chances. Et donc en termes de puissance moteur, il y avait dans les top teams que George Russell qui bénéficiait d'un moteur neuf. Autrement, dans toutes les autres formations, on faisait, ouais, avec les moteurs
les traditions se perdent un petit peu
usagés, tout à fait. Donc Ferrari avait un petit avantage de ce côté-là, et puis l'effet, le non-effet DRS à Monza spécialement, parce que moins tu as de traînées sur un aileron, moins le DRS
crée
une différence. Donc tout ça mis bout à bout fait que eh bien, les extrêmes se sont un petit peu rejoints pour une fois, parce que Ferrari sortait quand même d'un week-end calamiteux à Zandvoort avec un top 5 sauvé par Sainz, mais qui ne sauvait pas la face, on va dire. Donc là, c'était, pour moi, c'est un petit miracle quand même. Et j'y vois même peut-être un petit effet marketing quand même. Il fallait que la fête soit belle, il fallait assurer ces célébrations. Ça fait plaisir de voir tout ça, mais on a un petit peu vécu là-dessus sur ce samedi, parce que Verstappen a dit samedi, moi, j'ai une voiture réglée pour la course.
Eh oui.
Voilà.
C'était donc, ça.
Petit péché mignon, on avait peut-être orienté aussi les réglages sur le samedi, quoique,
clairement. Ah ben, clairement.
Quoique le dimanche, la dégradation n'a pas été spectaculaire. Il mangeait un petit peu plus les pneus. Mais tout ça, mis bout à bout, ça a fait que, Ferrari s'est retrouvé dans le jeu pour la victoire. Pour moi, personnellement, c'était une surprise quand même.
Alors, Ferrari dans le jeu pour la victoire. On va peut-être réduire un petit peu l'angle et s'intéresser à Carlos Sainz, parce qu'en fait, ça a été le seul empêcheur de Red Buller en rond ce week-end, ouais. à Monza. Meilleur temps dans les séances d'essais libres 2 et 3. Deuxième temps dans la première séance d'essais libres à 46 millième de Max Verstappen. Il a offert une résistance héroïque et au double champion du monde et ensuite à Sergio Perez et enfin à Charles Leclerc pour monter sur le podium. Il n'a jamais été véritablement soulagé ou protégé par son équipe, hein, même dans les derniers tours où il dit « les gars, on peut peut-être ramener ce résultat à la maison », façon de dire « allez, lâchez la phrase, on gèle les positions et on n'aura pas d'accident ». En fait, il a piloté comme un numéro 1, sauf que ce statut, plus le temps passe, plus on se dit que quoi qu'il fasse, il ne l'obtiendra pas au sein de la Scuderia Ferrari. Est-ce que c'est le sentiment que tu as eu ce week-end? Et qu'on a depuis longtemps, d'ailleurs, on connaît cette relation un petit peu particulière entre Fred Vasseur et Charles Leclerc.
Leclerc aurait été en pôle, j'aurais été beaucoup plus confiant. Là, je trouve que Sainz a fait du Sainz, c'est-à-dire que le samedi, il a un réglage un petit peu agressif sur sa voiture, il aime bien faire le beau quand même. Son obsession, c'est battre Leclerc en qualif pour montrer qu'il a l'envergure d'un pilote numéro 1, c'est ça qu'il recherche. Et dimanche, une fois que Verstappen est passé, son obsession, c'était d'être sur le podium ou le premier pilote Ferrari, s'il ne l'était pas. Et il a atteint cet objectif. Mais
ce qui est une ambition légitime. Tous les pilotes nous disent qu'ils veulent finir devant leur coéquipier.
Alors, il a fait 14 tours en tête, je crois, précisément. C'est dans le 15e que Verstappen l'a dépassé. Et pour lui, c'était super important. Et d'ailleurs, dans les statistiques, c'est lui maintenant qui arrive en 3e position derrière Verstappen et Perez pour le nombre de tours en tête. Il n'avait jamais mené un Grand Prix, c'est fait. Il n'était pas monté sur le podium et pour lui ça comptait beaucoup d'affirmer ce statut, parce qu'il est aussi en train de négocier un nouveau contrat. Fred Vasseur dit c'est pas la priorité, tout le monde est d'accord,
ça dépend pour qui.
On voit un petit peu ce qui reste, on en parlera après, mais c'était ça un peu, et je le trouve un petit peu trop court-termiste. Et quand je le vois en fait en tête poussé par Verstappen, je sais qu'il va détruire cette pneu. C'est toujours la même histoire, ça s'est produit par le passé à de nombreuses reprises, et il en a fait un petit peu trop. Alors l'avantage quand même, c'est que quand il est rentré, il a déclenché d'autres arrêts au stand, parce que c'est un Grand Prix, un seul arrêt, donc il fallait tout de suite couvrir cette tentative.
Ouais, il fallait surtout pas se faire undercutter par un adversaire.
Tout à fait, c'est pour ça que Verstappen est rentré, alors qu'il aurait pu tenir un peu plus longtemps. Mmh. Leclerc a dit, mes pneus étaient moins dégradés. Donc là aussi, c'est pareil, on a eu une vision qui était assez avantageuse pour Sainz, mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a détruit ses pneus, tapé trop dans ses pneus pour rester devant Verstappen.
Ah, je te trouve un petit peu rude quand même, parce qu'il a livré un vrai combat, j'ai trouvé, pendant ce Grand Prix, à la fois pour résister à Max Verstappen, même si on se disait tous que finalement, il allait finir par tomber dans les mains de Max Verstappen, mais après la défense qu'il fait face à Charles Leclerc avec des pneus qui sont clairement moins bons que ceux du Monégasque, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais c'est comme ça, il faut bien reconnaître que Carlos Sainz, il n'a pas la cote d'amour que Charles Leclerc a, à la fois dans le paddock et puis alors au sein de la Scuderia, c'est assez manifeste également. À Monza, il y a quand même des gens qui se sont réjouis de ce podium de Carlos Sainz. Et finalement, de cette quête de statut de pilote numéro 1, bah, c'est les gens de chez Audi. Il y avait du monde de chez Audi ce week-end à Monza, dont un qu'on reconnaît facilement dans les allées, c'est Alan McNish, un des responsables hein, désormais du programme Audi en Formule 1. Et on sait bien que pour monter une équipe de Formule 1, pour recruter, il faut au moins 2 ans. On voit bien la problématique qu'a Fred Vasseur pour recruter pour Ferrari. On voit bien le problème auquel est confronté Bruno Famin pour Alpine. Avec les clauses de jardinage, comme on dit, il faut à minima 2 ans pour recruter du personnel de haut niveau. Donc, ça se joue en ce moment pour Audi. Et ce qui est valable pour le personnel technique, il faut aussi faire son marché du côté des pilotes. Et on en a déjà parlé, hein, des connexions qu'il y a entre Carlos Sainz Senior, le double champion du monde des rallyes, et le groupe Volkswagen. Il y a des vraies connexions. Est-ce que tout ce beau monde s'est rencontré ce week-end à Monza? Je ne peux pas vous dire, hein, j'étais pas dans la confidence, mais ça serait quand même étonnant qu'on ne se soit pas simple, au moins croisé. Mais si la prestation de Carlos Sainz, elle a aucune chance de convaincre Fred Vasseur d'en faire son numéro 1, du côté de Audi, on se dit, mais solide quand même l'Espagnol.
Oui, d'ailleurs, je note aussi son super dépassement sur Hamilton au 27e tour, juste avant le freinage d'Ascari. On voit ça très rarement, franchement. Pour moi, c'est le dépassement du Grand Prix. En fait, c'est le coup d'audace, quand même, même si Hamilton était assez faible à ce moment-là. Donc, il avait un côté quand même incisif. C'est vrai qu'il s'est défendu âprement devant Verstappen, mais c'est là aussi où il a fait un petit blocage de roue qui lui a coûté très très cher et qui a ouvert la porte à Verstappen. Il fallait faire 0 faute, il a fait une faute. Mais c'est un peu ça, mais il a bénéficié quand même d'une certaine bienveillance aussi de Leclerc qui a accepté ce rôle en couverture. Il ne l'a pas attaqué. Leclerc a été le plus incisif avec Pérez. Il a pris des risques à la limite du raisonnable. Oui. Mais voilà, on n'a pas eu de carton à la fin, ce qu'on redoutait quand même. Bon, il a tenu cette 3e place, c'est important pour lui, mais j'arrive pas à ôter cette étiquette de pilote numéro 2, au mieux numéro 1 bis, de circonstances, mais c'est pas lui qui mènera Ferrari au titre mondial.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est la plus belle prestation dans la carrière de Carlos Sainz sur l'ensemble d'un week-end, et ça arrive à un moment, comme par hasard, hein, où on commence maintenant à parler. On parlera de la grille 2024, mais on commence déjà, ça va arriver très vite hein, maintenant, hein, Alfa Romeo va se retirer, Sauber va revenir, et dans 2 ans, c'est Audi qui prend la place de Sauber. Pour moi, il n'y a pas de hasard, et c'est vrai que Carlos Sainz traîne un petit peu cette image de pilote qui a du mal à convaincre. Quand il a été chez Renault, il n'a pas fait des choses exceptionnelles. Quand il est arrivé chez McLaren, finalement, rapidement, Lando Norris a montré qu'il était largement au niveau de l'Espagnol. Il traîne un petit peu ça. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi une maturation plus lente et qu'avec le temps, Carlos Sainz finira par être un pilote numéro 1 pour un gros constructeur qui débarque en Formule 1, comme Audi?
Oui, pourquoi pas, parce que Audi, en fait, ils ne convainquent pas une star de venir tout de suite.
Là, il faut signer sur plan, hein, parce voilà. Que pour l'instant, on ne la voit pas, l'Audi.
Il leur faut des pilotes, justement, du profil de Sainz. Alors, Bottas, c'est un peu fini, parce qu'on sait qu'il est sur la pente descendante, mais il leur faut des pilotes comme ça, qui sont vraiment rompus au fonctionnement d'une écurie, même si André Zedel sait très très bien comment ça fonctionne, mais après, il faut le relais entre l'équipe et la piste, et il n'y a que le pilote qui peut le faire. Donc, ils ont tout à fait raison de cibler ça. On en reparlera après du timing qui est important, mais moi, je pense que le but quand même de Sainz, c'est de rester chez Ferrari, parce que c'est là où tu as encore l'image de pilote bankable sur le marché. Ferrari paye très, très bien. C'est une aura, c'est un prestige, c'est du prêt à gagner ou quasiment du prêt à gagner tout de suite. Beaucoup plus régulièrement que le sera Audi, qui visera les victoires en 2028. Si on dit pour leur 3e saison, quand même, c'est super ambitieux. C'est seulement dans 5 ans. Déjà, c'est presque demain pour une écurie qui a tout à faire et à se reconstruire. Il a cette proposition sur la table. Mais son but, c'est et il a, d'ailleurs, il s'est permis de mettre un petit coup de pression en disant, moi, j'aimerais qu'il voulait une décision même avant Monza.
Ouais, ouais.
Mais bon, Vasseur, on ne lui parle pas comme ça, de toute façon, ni l'entourage de Sainz. Mais non, mais ce sera la continuité et on verra. Après, s'il re-signe pour un an, ça nous donnera petite indication parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Et on va voir ça.
Ouais, il faut faire la jonction, hein. Il faut faire cette saison 2025 et il aimerait bien, tout effectivement, avoir l'assurance d'être au sein de la Scuderia en 2025. Et puis après, 2026, ouais. L'arrivée d'Audi, mais, on verra ça.
Mais on l'a vu, tiens, tu vois, je me remémore la grille type qu'on avait faite avant la trêve estivale. Et on avait expliqué que Sainz était un monstre de régularité, qu'il était le deuxième meilleur performeur en qualif derrière Verstappen parce qu'il arrive toujours à se qualifier en première ou deuxième ligne, au plus à top 5, quand Leclerc fait du yo-yo.
C'est ça.
Leclerc mène 8-6 dans les comparaisons en qualif le samedi. Donc, ce n'est pas infamant pour Sainz. Je dirais qu'il sert un petit peu plus le jeu au championnat aussi, hein, clairement.
Ouais.
Donc, bon, mais... Ça, c'est parce qu'on est encore un petit peu en difficulté, mais c'est un petit peu la même comparaison qu'entre Hamilton et Russell. On voit que quand la voiture marche bien, tout de suite, le pilote numéro 1 reprend le dessus. Bon.
Alors, on va justement évoquer la grille de départ qui nous est promise pour 2024 avec un élément d'importance quand même qui s'est déclenché durant cette semaine en Italie, c'est la prolongation du contrat de Lewis Hamilton et de George Russell, il ne faut pas l'oublier, le jeune Britannique, Lewis Hamilton, qui a donc prolongé son contrat avec Mercedes 2024 et 2025 pour le septuple champion du monde. Ça tardait depuis quelques semaines. Ça y est, c'est fait. On va donc avoir Lewis Hamilton jusqu'à ses 40 ans, finalement, en Formule 1. Qu'est-ce que ça te dit, toi, cette signature de Lewis Hamilton?
Il y a une petite phrase ou un bout de phrase qui ne t'a peut-être pas échappé. Alors, moi, ce qui se dégage de tout ça, c'est l'énergie qu'il a. C'est la passion pour son métier. Et il explique qu'il y consacre toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de projet de famille à côté. On sait que c'est très, très difficile maintenant sur des calendriers qui sont surchargé, mais il dit tant que je me sens capable, que j'ai la volonté de me préparer pour être en forme pour le travail au quotidien que ça nécessite, parce qu'il passe beaucoup de temps à l'usine, avec les ingénieurs, etc. Bon, je continuerai. Et ça veut dire qu'il va continuer jusqu'à 40 ans et même plus. Et il a dit, je pense déjà au prochain contrat. Donc, là, l'année dernière, il avait dit qu'il se voyait piloter encore à peu près 5 ans.
Ouais.
Donc, 42, 43, par rapport à ce que fait Fernando Alonso, il s'y voit tout à fait. Et puis, ça veut dire aussi qu'il ne pilotera sans doute jamais pour Ferrari. Ça, c'est même pas un serpent de mer. Je pense que c'est réservé à des gens qui s'ennuient un petit peu et qui ont besoin de se dire, tiens, s'il se passait quelque chose...
Sois pas trop méchant, je crois qu'on en a parlé.
non, mais... forcément, parce que à partir du moment où des gens en parlent, ça devient une sorte de rumeur où ça devient le sujet sur lequel on interroge les pilotes, les directeurs d'équipe. Fred Vasseur est obligé de se positionner dessus, mais derrière, il n'y a rien.
Mmh.
Et tout simplement, on sait que tant qu'il n'a pas signé chez Mercedes, on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une surprise type Vettel, hein? On ne l'attendait pas du tout à quitter Red Bull pour aller chez Ferrari, puis c'est tombé un matin comme ça, boum, il change de crèmerie. Mais ça veut dire qu'on va avoir une grande stabilité, 7 teams sur 10 qui vont rester inchangés.
Ouais, c'est ça.
Il y en a peut-être d'autres qui vont, voilà. Et je trouve que dans une saison même où Red Bull et Verstappen dominent tout, on n'avait pas spécialement besoin d'avoir une information du sensationnalisme Hamilton chez Ferrari. Et puis après, on avait expliqué que ça ne rimait à rien par rapport à l'investissement de Mercedes dans les projets pour la diversité de Lewis Hamilton, qui avec force espèce sonnante et trébuchante,
oui,
hein,
oui,
on en parle,
oui,
très clairement. Hein. Et là-dessus, si Lewis Hamilton y va dans n'importe quelle autre écurie pour un ou deux ans, il casse tout.
Il n'aura pas, il aura pas ça.
Voilà, tout à fait. Donc lui, ça sera jusqu'au bout. On verra bien ce que ça donne après. Et puis, globalement, Wolff a bien résumé les choses. Il a dit, on a le meilleur line-up du plateau, et c'est vrai.
Oui, je suis pas loin d'être d'accord avec Toto Wolff. Donc, cette équipe ne changeront pas d'effectif pour la saison 2024. Red Bull, Mercedes, donc Aston Martin, parce que bon, même si on ne sait pas exactement le contrat qu'a Lance Stroll, on peut vous dire que tant que papa sera aux commandes, Lance Stroll sera au volant. Charles Leclerc, Carlos Sainz chez Ferrari, Norris Piastri et Gasly Ocon ne changeront pas. Magnussen, Hülkenberg ont été reconduits chez Haas. Reste finalement Williams, Alfa Romeo qui va redevenir Sauber en 2024 et AlphaTauri.
Qui changera peut-être de nom aussi.
Voilà, exactement. À nous donner soit un, soit deux pilotes. Hein, parce que si on commence par Williams, on sait que Alexander Albon, lui, sera chez Williams. Et maintenant, est-ce que Logan Sargeant sera à ses côtés?
Alors, ce qui est marrant en plus, c'est que Albon est placé par Red Bull chez Williams, ce qui a fait bondir Toto Wolff. Mais là, maintenant, en fait, il n'aurait pas d'intérêt spécial à aller, par exemple, chez AlphaTauri, retourner chez AlphaTauri. Là, Williams fonctionne très, très bien. Elle devient même assez polyvalente, cette voiture, rapide. Elle était typée circuit rapide. Elle devient beaucoup plus forte aussi sur des circuits, des tracés longs type Zandvoort. C'est assez incroyable. Et chez Williams, la question, effectivement, c'est quid de Sargeant. Pour résumer un petit peu, il était quoi? Il était... cinquième du championnat de Formule 2 l'an dernier.
Oui, je crois que c'était ça. On s'était posé la question justement sur sa légitimité.
Et historiquement, quand on va chercher jusqu'au top 5, on tombe rarement sur un grand, grand pilote. Il y a généralement un ou deux pilotes qui sont éligibles en Formule 2 pour l'année suivante en Formule 1. On avait souligné les bons débuts de Sargeant, puis là, ça s'est un peu tassé. Moi, je trouve qu'il faut être patient quand même par rapport à des débutants. La première moitié de saison, ils apprennent. Et puis, on attend une progression en deuxième moitié de saison. Il faut voir, parce que Williams a quand même investi sur ce pilote qui est américain, qui est quelque part identitaire, qui est emblématique du projet du propriétaire américain de Williams. Donc, il ne va peut-être pas sortir de la voiture comme ça, même s'il a un contrat d'un an, et même si Toto Wolff pousse Mick Schumacher.
Oui, alors c'est ça qui est assez, assez étonnant. On va en reparler. Je me permets juste une dernière petite chose. Trois Grands Prix de Formule 1 aux États-Unis l'année prochaine. Sargeant, il a quand même un rôle à jouer, sans doute, hein, en tout cas une carte à jouer par rapport à ce calendrier. Alors oui, Mick Schumacher, de retour éventuellement chez Williams, est-ce que ça te paraît plausible? Malheureusement, j'y crois pas trop, moi.
Ben, je pense que ça peut faire pchit comme De Vries, qui était poussé comme c'est pas possible par Wolff, qui l'avait placé le vendredi matin dans plusieurs voitures différentes l'année dernière. Et puis on a vu que il n'avait pas un talent spécial, on va dire. C'est un très bon pilote, on n'a aucun doute là-dessus, mais il faut être un peu plus que ça en Formule 1. Il faut avoir quelque chose d'un petit peu extraordinaire, quoi. Moi, Mick Schumacher, je pense qu'on a fait le tour de la question de toute façon. Et que,
toi, tu nous avais dit que c'était un super pilote d'endurance.
Tout à fait, je ne reviendrai pas là-dessus. Il pourrait être très, très heureux en pilote d'endurance, avoir un beau projet. Il y en a encore qui sont à venir. Il y a des paquets à distribuer.
Oui.
Mais il n'a pas fait ce deuil, en fait, de la catégorie dans laquelle son père s'est illustré. Toto Wolff veut lui redonner une deuxième chance. Je trouve que c'est bien aussi, parce que tout pilote mérite une deuxième chance. Mais Wolff a quand même dit que c'est bloqué pour l'an prochain, et je pense pas que les lignes vont boucher, même si Sargeant est un petit peu
Sur la sellette.
Voilà, c'est
j'y
ça.
Crois pas. Honnêtement, j'y crois pas.
Même s'il casse du matériel, même si ça coûte cher, moins que Mick Schumacher.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà. Donc, c'est qu'à demander dans le décompte final.
Vous n'avez qu'à demander à Günther Steiner. On parle de Alfa Romeo qui va donc redevenir Sauber l'année prochaine. Valtteri Bottas reste. Guang Yuzhou, c'est pas sûr. Son contrat s'arrête à la fin de la saison. Il y avait des gros appuis financiers pour que le Chinois roule aux côtés de Valtteri Bottas.
Spécialement en tant qu'ambassadeur d'Alfa Romeo en Chine,
et voilà.
Pour booster les ventes.
Est-ce que ça, ça va s'arrêter, et du coup, Guang Yuzhou va partir. Pas garanti non plus, parce que qui on met dedans reste,
voilà.
Il y a un pilote qui appartient un peu au giron de Sauber, qui est en train de gagner la Formule 2. On touche du bois et de la peau de singe. Il se trouve qu'il est français aussi, donc on peut en parler. Théo Pourchaire, hein, qui va aborder le dernier week-end de la saison avec, je crois, 25 points d'avance. Est-ce que ça peut faire un autre français en Formule 1? Troisième français, j'allais dire un deuxième. On en a déjà deux.
La question, c'est que va décider Audi, c'est surtout ça. Mais la fenêtre de tir est parfaite, le timing est excellent parce qu'il s'agit de faire rouler un jeune en 2024 et en 2025 avant de passer sous bannière Audi. Donc, on peut former un bon jeune en 2 ans, lui mettre le pied à l'étrier pour en faire un bon pilote.
L'éprouver.
Et là, maintenant, c'est exactement ça. Et ça serait le bon moment de donner sa chance à Théo Pourchaire qui l'attend depuis longtemps.
On a le droit de dire qu'il la mérite.
Tout à fait, mais il était dans les petits papiers de Fred Vasseur, qui l'a poussé à refaire une saison de Formule 2, bonne pioche. Ah. Maintenant, on va voir ce que décide André Zeidel. Je ne vois pas après un autre pilote qui pourrait surgir et le doubler dans la galaxie Sauber.
On passe à AlphaTauri. Alors on ne sait pas si ça sera encore le nom de cette équipe l'année prochaine. Il va y avoir pas mal de changements. On l'a dit, il y aura beaucoup moins de liberté sur la technique.
Oui, tout à fait.
L'année prochaine.
Ah ben globalement, ça sera une Red Bull bis. Voilà, une Red Bull RB19 déguisée en je ne sais pas quoi encore. On ne nous a pas annoncé le prochain nom d'AlphaTauri.
Mais alors, est-ce que Yuki Tsunoda sera encore là? Alors, si on prend les pilotes, on va dire par ordre chronologique.
Alors, il y a Daniel Ricciardo sera là. Il a été annoncé par Helmut Marko, ce qui vaut officialisation. Clairement, même s'il n'a pas été
signé encore.
Bon, là, parce qu'en plus, il est blessé. La question, d'ailleurs, pour Ricciardo, c'est est-ce que ça servira à quelque chose, franchement, parce que je pense que le gros de sa carrière est derrière lui et que il n'arrivera pas à repêcher un volant chez Red Bull. Ce qu'il a fait chez AlphaTauri cette année n'a pas été hyper convaincant.
Il n'a pas eu beaucoup de temps non plus, hein, mais c'est sûr que cette blessure, ça l'a quand même fauché au mauvais moment.
Quand tu reviens, il faut marquer les esprits. Alors après, le deuxième volant, peut-être que Red Bull maintenant a un certain détachement par rapport aux obligations vis-à-vis de Honda. Je ne sais pas si réellement... Enfin, Honda payait de toute façon pour avoir Tsunoda. Il n'y a pas d'autre mot, mais voilà, Lawson a pris ses marques. Et d'ailleurs, Lawson, à Monza,
ouais,
il a obtenu le meilleur résultat d'un coéquipier de Tsunoda.
C'est ça.
Cette année. Donc, mieux que De Vries, mieux que Ricciardo. Et ça, quand même aussi, c'est marquant. Donc, maintenant, il mérite de rester. Donc, Ricciardo Lawson serait de la gueule.
Ouais. Donc, toi, tu sors Tsunoda de l'équation aussi. OK.
Ah ben, complètement. Et puis, si tu remarques, en plus, on a spécifié qu'il y a 7 écuries sur 10 qui ne bougent pas. Parce que il n'y a pas non plus une pépite dans les grands teams.
Ouais.
Je parle de Mercedes, on cherche le prochain Russell, Ferrari cherche le prochain Leclerc, et Red Bull aussi cherche le prochain Verstappen. Ils n'ont pas. Hein.
Ouais.
On verra ce que fait Lawson. Hein. Voilà. On a pas de doute sur le fait qu'il a quand même du talent. Il s'est bien intégré en plus. Vraiment, il arrive un samedi de Grand Prix. C'est quand même pas les meilleures conditions.
Non, il fait le job.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que ça n'a pas trop bougé. On ne voit pas de choses venir.
Est-ce qu'on élargit un tout petit peu, Stéphane, vraiment en quelques secondes?
Ah ben oui, parce que si sur, ça ne bouge pas tellement, c'est que
sur 2025.
2024, mais 2025, voilà, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir aussi. Mais là encore, c'est pareil, il y a des contrats qui sont verrouillés chez Mercedes, les deux pilotes, chez McLaren, a priori Norris, mais chez Red Bull, qui sera le deuxième pilote.
Ouais, ça, on verra.
T'as une préférence?
Tu veux que je dise? Je vois bien Lawson une saison chez AlphaTauri, et s'il fait le job, allez direct chez Verstappen. On prendra pas le risque, je sais où tu veux aller, on prendra pas le risque de mettre quelqu'un qui pourrait venir embêter Max Verstappen. Ça serait trop compliqué à gérer.
Alors,
Christian Horner, il a la perle. Pourquoi veux-tu qu'il aille s'embêter, perdre des cheveux,
voilà,
en mettant un Lando Norris, c'est ce que tout le monde attend, parce que les deux sont copains comme cochons, que Lando Norris, on sent qu'il a une vitesse de pointe assez phénoménale et qu'on se dit qu'il végète un petit peu chez McLaren, qui tarde à passer ce cap, mais j'y crois pas du tout.
Non, mais la surprise, peut-être, ça pourrait être Oscar Piastri, parce que Norris est verrouillé chez McLaren en 2025, et Zak Brown l'a dit et redit, tout en sachant que si Oscar Piastri fait le job, il le re-signe, et puis là, il lâche Norris pour un gros paquet d'euros. Mais Piastri, mine de rien, il est libre sur le marché en 2025, et ça pourrait peut-être l'intéresser. Bon, surtout qu'on le prend vraiment pour un numéro 2, Grand Prix après Grand Prix. voilà, c'est les arrêts au stand, les stratégies qui sont quand même assez désavantageuses par rapport à Norris. On sait sur qui on mise pour l'instant. Bon, tout ça, ce sont des spéculations, évidemment. Et puis on verra si c'est la place aussi chez Aston Martin, etc. Mais pour résumer, le marché est bloqué pour 2024, mais il s'ouvrira en 2025.
Et ben voilà, on a à peu près fait le tour de toutes les choses qu'on voulait vous dire après ce Grand Prix d'Italie, qui n'a pas été la course la plus spectaculaire de la saison, même si on a eu, on l'a dit, on l'a répété, une très très belle résistance de Carlos Sainz. Mais donc on en est à 10 de suite pour Max Verstappen, qui partira favori pour le prochain Grand Prix. Ça sera à Singapour. Alors on va avoir un petit week-end pour souffler là quand même.
Oui, Singapour danger pour Red Bull. C'est Verstappen qui avait identifié les circuits en ville, donc sinueux, avec un revêtement assez irrégulier, des bosses.
Et Alonso avait donné rendez-vous à Singapour. Ouais,
tout à fait. Et Verstappen avait dit, c'est vraiment sur ce type de circuit qu'on peut être battu. Ils avaient eu chaud à Monaco.
Ouais.
Singapour, c'est pas exactement la même chose que Monaco, mais il y a des caractéristiques qui peuvent mettre en difficulté Red Bull.
Je me demande si c'est pas ce qu'on pourrait d'ailleurs leur souhaiter de mieux à Red Bull, comme ça y est, voilà, la série s'arrête, on n'en parle plus, on se concentre sur le travail. On verra ça. C'est un peu ce qu'on pourrait souhaiter aussi à nous, fans de Formule 1, que cette série s'arrête, qui est quelque chose d'un petit peu extraordinaire, qui vienne ponctuer ce Grand Prix de Singapour. On a le temps d'en reparler, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Fous du Volant. Je ne sais pas encore de quoi on parlera. On a 2-3 petites choses à faire, du fact-checking notamment chez Aston Martin. On va s'amuser un petit peu.
Oui.
Voilà, bah, d'ici là, vous savez ce qu'on fait ? On coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.